9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, dans AVS, tous les jours jusqu'à 10h sur Beurre FM, on prend soin de votre santé avec la médecine et toutes les médecines. Mon invité ce matin s'appelle Denis Piot. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Docteur Piot, vous êtes médecin généraliste et vous exercez la médecine dite conventionnelle depuis une quarantaine d'années près de Belfort.
Tout à fait, tout à fait.
Et si vous êtes là ce matin, c'est pour nous parler de Le Monde des magnétiseurs aux éditions Bonneton que vous allez montrer à la caméra puisque l'émission est fermée, filmée. Est-ce que vous voulez m'expliquer comment un médecin généraliste de 64 ans en fin de carrière s'est-il mis à s'intéresser au monde des magnétiseurs, qui est quand même un sujet, en tout cas à problème, au moins controversé?
Tout à fait, c'est une question qu'on me pose souvent et effectivement je me la pose d'ailleurs moi-même. Qu'est-ce que à 64 ans, alors que j'arrive en fin de parcours, je me suis mis dans l'idée de passer un travail de thèse, une thèse donc sur les magnétiseurs.
Parce que ça a commencé par une thèse en fait.
Ça a commencé par une thèse, un travail de thèse donc et de recherche que j'ai présenté en faculté de médecine en juin 2019 précisément. Et là, il y a trois éléments donc pour cette réponse, enfin pour cette question. La première, c'est un constat sur notre médecine, on pourra y revenir, médecine fantastique de technologie mais qui montre ses limites, on l'a vu encore dernièrement, limites donc on a l'impression, ou plutôt la population a l'impression qu'on a réglé et qu'on a tout réglé, on n'a rien réglé. Vous avez remarqué qu'un petit virus avait mis le monde à genoux et que donc les économies s'étaient effondrées, donc on n'a rien réglé, enfin on a beaucoup avancé, je le dis toujours, la médecine donc a fait un bond formidable. L'espérance de vie en 1900 était de 45 ans, elle est de 85 ans actuellement, mais on a une médecine extrêmement donc technologique, donc en fait qui j'y reviendrai.
Non, vous avez une pratique en cabinet de 40 ans.
Oui,
donc ça veut dire que
j'ai un recul.
Vous avez du recul,
expérience.
Et si vous avez de la mémoire, vous vous souvenez de ce qui a changé en 40 ans.
Absolument.
On peut parler de l'échographie, mais pas que, les scanners, l'IRM, enfin voilà.
Je crois que je pourrais multiplier les exemples, donc en fait sur toutes les nouvelles sciences, en génétique, en procréation, en oncologie, la médecine a fait vraiment, et grâce entre autres à l'informatique bien sûr, un vrai vrai bond en avant, c'est sûr. Mais on pourra y revenir si vous voulez bien sur cette médecine extraordinaire. Le second élément, pour ne pas perdre l'auditeur, c'est que j'ai découvert donc que j'avais quelques prédispositions. D'abord, de sourcier, de façon étonnante, en rencontrant, en faisant un chemin de Saint-Jacques, un type qui m'a révélé que j'étais sourcier, je ne savais même pas ce que c'était. Effectivement, j'ai découvert.
Et vous l'avez cru?
Je l'ai cru, c'est surtout que je me suis exercé, que j'ai fait des stages, donc en fin de compte, et c'est marqué dans ma salle d'attente d'ailleurs, donc si vous avez besoin des services d'un sourcier, adressez-vous au docteur Piot. Alors les gens me disent, ah vous en connaissez un sur le temps, j'ai dit, mais c'est moi, et je le fais bien entendu gratuitement, bénévolement, comme tout ce que j'ai fait dans ma vie. Et de sourcier à magnétiseur, il n'y a qu'un pied, il n'y a qu'une main, parce qu'en fin de compte c'est le même principe, et je pourrais y revenir, c'est cette prédisposition sans doute liée donc à surdosage de cristaux de magnétite qu'on possède tous, parce qu'on a tous un sens magnétique, mais à des degrés donc divers. Et puis, le troisième élément, encore une fois, le constat, la découverte, les circonstances. J'ai eu, après une vie d'engagement, je dois dire assez intense, un petit accident vasculaire, donc en fait en 2018, qui m'a donné envie de poser les valises et surtout donc d'écrire et d'aller à la rencontre de ces passeurs d'énergie, ces magnétiseurs donc que j'avais envie de rencontrer.
Voilà. Oui, et vous expliquez que finalement beaucoup de praticiens de votre génération, vous pensiez que tout ça c'était des sornettes.
Alors non seulement je pensais que c'était des sornettes, mais je pensais surtout donc en fait qu'il y avait une véritable opposition à tout ça. Et quand j'ai commencé, puisque j'ai rencontré quand même 150 médecins généralistes de l'aire urbaine dans laquelle je travaille, je me suis dit que j'allais me faire jeter, qu'on allait me dire Piot, occupe-toi de tes affaires, etc. Et pas du tout. Ça a été vraiment une vraie surprise. J'ai été bien accueilli. Et d'ailleurs dans les commentaires, si vous avez pu voir donc les commentaires que je remets d'ailleurs dans le livre des médecins, il y en a une quarantaine qui ont pris le temps, donc il y a un seul commentaire qui est vraiment, j'allais dire presque agressif, mais sinon, donc c'est plutôt bienveillant, et encore une fois, beaucoup me disaient, mais tu connais les magnétiseurs, alors donne-nous des noms, et puis moi j'ai un fils qui a un psoriasis, et puis moi-même je fais de l'eczéma, tu nous laisses pas comme ça. Donc j'ai été ébahi, je dois dire ébahi, donc par la rencontre avec mes confrères.
Et là, ce sont des médecins qui vous parlent.
Hein. Oui, des médecins.
C'est pas des kidames, c'est des médecins qui disent, tu connais un tel pour le pso.
Oui, oui, c'est ça. Et je leur redonnais, donc en fin de compte, le nom des magnétiseurs que j'avais rencontrés moi-même. Donc, c'est
alors,
étonnant.
Vous en avez sélectionné 25 dans votre zone de...
Dans l'aire urbaine, voilà. Oui, c'est une aire urbaine, donc autour du Doubs, du Théâtre de Belfort, de la Haute-Saône, qui représente 300 000. Alors, il y a une zone rurale, il y a des zones plus plus urbaine, enfin voilà.
D'accord, mais comment on fait pour en sélectionner 25? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tape magnétiseur
surtout
Belfort.
Surtout
comment ils apparaissent?
Surtout pas. J'ai commencé par mettre une affiche dans ma salle d'attente en disant, si vous connaissez des magnétiseurs, ayez la gentillesse de me donner les noms. Et puis, c'est arrivé assez rapidement. Je me suis arrêté d'ailleurs à 25, considérant que pour mes statistiques et pour mon enquête, j'allais dire épidémiologique, c'était assez, je crois, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Donc 25, je les ai eus uniquement par oui-dire, et bien entendu pas par Internet, ni donc en fait par les journaux.
C'est les noms qu'on se refile sous le manteau. Là,
exactement. Voilà, donc les noms que connaissent des infirmières, que connaissent des pharmaciens, que connaissent des kidam, qui de toute façon m'avouaient, me disaient, ah, bah, moi j'y vais, donc en fait je vais vous donner le nom de machin, de madame truc au fin fond de la Haute-Saône. Et j'ai fait des superbes rencontres. Je dois dire, des superbes rencontres.
Donc parce que vous êtes allé à la rencontre de ces 25 guérisseurs, magnétiseurs, on précisera les termes tout à l'heure, pour leur administrer un questionnaire de 14 questions sous forme de discussion.
Oui.
Ils sont pas jeunes quand même, hein.
Pas beaucoup.
le plus jeune a 49 ans.
Exactement. Oui, mais il faut sans doute aussi avoir une certaine sagesse. J'ai rencontré des gens qui étaient proches de la Terre, qui avaient les pieds vraiment, donc en fait sur Terre, c'est le cas de le dire. Et puis des gens qui avaient effectivement donc un certain recul, donc et des gens qui vivaient dans l'humilité, l'anonymat. Hein, effectivement. Donc
vous précisez. Alors, oui. Et ça c'est pour tout le monde. Hein. Eux, ils font ça gratuitement, en gros.
Pas tous, parce que donc.
Enfin, ils sont pas rémunérés. Il y a pas un tarif, on va dire.
Alors, pour certains, si, et pour une raison très précise, c'est que magnétiser comme ça, donc recevoir les gens, et forcément, les gens disent, qu'est-ce qu'on vous doit? Donc, ils amènent avec des cadeaux, etc. Et il y en a qui me disaient, moi, j'en avais marre de recevoir des cajots de tomates, c'est le cas de le dire au moment des tomates. Et donc, à un moment donné, et par rapport également donc à une chose précise, par rapport au fisc de toute façon, parce qu'il y a toujours des voisins bienveillants qui vont dire, oui, mais machin, il reçoit, etc. Donc il y en a qui ont pris donc le statut de micro-entreprise avec des tarifs plutôt honnêtes, hein, je dois dire.
Enfin, dans les 25 que vous rencontrez, il n'y en a aucun qui fait ça pour l'argent.
Non.
Il y a pas de consultation à 75 euros, en tout cas.
Je l'affirme.
C'est ça que je veux dire.
Mais bon, j'ai sélectionné aussi peut-être mes guérisseurs. Aucun ne le fait pour l'argent, et tous le font avec générosité et humilité. Tous. Et c'est ce qui m'a énormément plu donc chez ces gens, et c'est ce qui m'a amené après une réflexion globale, mais on pourra y revenir aussi, sur la santé, sur la vie, sur la mort, etc. Parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es médecin depuis 40 ans. Quel est le sens donc que tu peux donner à ton parcours? Quel est le sens donc en fait que tu peux donner à toutes ces études, à toutes ces... Et ça a été une vraie remise en cause. Alors ça ne veut pas dire que j'ai changé ma façon de travailler, parce que je continue à faire d'une médecine conventionnelle en utilisant les protocoles, en utilisant selon la faculté les recommandations, etc. Donc je ne suis pas un uluberlu comme on pourrait l'imaginer. Je fais une médecine extrêmement classique, encore une fois, mais j'ai, je crois, cette ouverture d'esprit. Le professeur Kofferschmidt le dit.
Mais pourquoi vous dites ça? Parce que vous avez peur quand on parle d'un magnétiseur qu'on associe à un uluberlu?
Non, mais on pourrait se dire le docteur Piotr là, il doit fumer un peu trop, etc. Enfin non, mais on peut imaginer quoi. Donc alors que c'est pas du tout le cas. Encore une fois, j'ai ce paradoxe, c'est ce côté un peu surprenant. Donc en fait, faire une médecine classique en journée, en ayant, je l'ai expliqué aussi dans mes conclusions, une autre façon d'écouter. Ça, j'en suis, et ça a été toute la leçon que j'ai reçue donc de ces rencontres et de mes recherches aussi, parce que j'ai beaucoup lu, et pas que sur le magnétisme, sur les médecines orientales, sur la médecine quantique, enfin la physique quantique, etc.
Le Reiki, enfin
blablabla. Le Reiki.
Il y a une double dimension dans votre travail que vous retranscrivez dans votre livre, à la lumière de la pandémie qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est qu'il y a là côté donc les 25 rencontres avec les magnétiseurs dont vous nous avez parlé. Et puis, il y a une partie qui est beaucoup plus administrative, on va dire, puisque vous avez administré un questionnaire que vous avez traité aux 120 médecins que vous avez rencontrés. Donc là, c'est la partie, on va dire, où vous croisez les réponses.
Absolument. Pour les magnétiseurs, c'était effectivement une rencontre avec une base, un interrogatoire sur des questions extrêmement importantes, sur la foi, etc. Pour les médecins, c'était vraiment une étude donc statistique. Alors, dans les règles, qui a été revue d'ailleurs, donc en fait, par la faculté, et qui a utilisé aussi donc un logiciel extrêmement précis, etc. Et là, il y avait pour les médecins 14 questions très précises. C'était ce qu'on appelle en auto-programmation, c'est-à-dire je leur remettais donc un questionnaire, je leur laissais le temps, il y avait une enveloppe timbrée, donc et ils me répondaient ou ils ne me répondaient pas. Voilà.
Ouais.
Mais beaucoup m'ont répondu, puisque sur 150 médecins rencontrés, 120 m'ont rendu, donc ils m'ont renvoyé la question, ce qui fait, je crois, 80%. C'est tout à fait intéressant dans ce type d'études.
Qu'est-ce qu'on peut dire, docteur Piot, sur les travaux scientifiques qui parlent de l'existence du magnétisme et de son efficacité? Est-ce qu'il y en a beaucoup?
Sur le magnétisme, non. C'est ça le problème. C'est qu'on est dans une médecine qui nécessite, et c'est bien, donc d'être... comment dire, scientifiquement, d'être cartésienne, avec des études, on le sait, pour les médicaments, et j'approuve bien sûr, des études en double aveugle, avec des critères d'inclusion, d'exclusion, etc. Pour le magnétisme, c'est difficile de faire une étude donc en double aveugle et autres. Quoique, j'ai lu récemment que pour ce qu'on appelle le toucher thérapeutique, qui est un peu l'équivalent du magnétisme aux États-Unis, développé par Dolores Krieger, il y a eu des études donc en triple, donc j'allais dire triple aveugle, c'est-à-dire avec un volant donc de patients traité par le toucher thérapeutique, donc qui est une forme de magnétisme, un volant de patients qui ont reçu un semblant, un placebo, et puis d'autres qui n'ont pas été. Et des études avec des cohortes suffisamment intéressantes pour montrer quand même qu'il y a de toute façon des résultats. Pas toujours, mais qu'il y a des résultats.
Mais c'est ça, c'est mais là où. Mais il y a quand même un vide au niveau des études.
Il y a un vide, c'est certain, c'est un vide. Mais moi, je réponds, parce que c'est la question qu'on me pose souvent. Faut-il. Pour admettre donc qu'une thérapeutique ou qu'une thérapie fonctionne, faut-il toujours démontrer le fonctionnement? Et je vais vous dire une anecdote,
et
j'adore.
Comment ça marche et pourquoi ça marche?
Je vais vous dire, j'adore cette anecdote. J'ai un ami haut placé, scientifique, etc. Et quand j'ai commencé mes travaux, il m'a dit, oh, t'es bien gentil, Denis, mais tout ça, c'est bien sympa, mais moi, en gros, je n'y crois pas. Et puis, cet ami, donc, en fait, s'est chopé un zona ophtalmique. Un zona ophtalmique, ça fait mal. Il a vu des grands spécialistes, et il y en a un qui lui a dit en douce, avoir un magnétiseur. Alors là, il s'est souvenu de moi, il s'est souvenu de mes travaux, il m'a dit, t'en connais un. Je l'ai envoyé vers une magnétiseuse que je connaissais. Deux séances ont suffi. Et la conclusion de cet ami, encore une fois, un type qui a eu des responsabilités intelligentes, scientifiques, rigoureux et autres, m'a dit, je m'en fous de savoir comment ça marche. Moi, le principal, c'est que je n'ai plus mal.
Bien, c'est passionnant, hein. Alors, vous racontez tout ça dans votre livre, Le Monde des Magnétiseurs, aux éditions
Bonneton.
C'est Christine Bonneton, d'ailleurs, qu'elle s'appelle. Mme Bonneton. Oui. Le docteur Denis Piot, que j'attends depuis plus de 6 mois, est enfin là. Vous êtes venu depuis Belfort, en plus, hein, pour venir jusqu'au studio. Vous attendiez que la pandémie s'arrête un peu, parce que ça vaccinait pas mal, hein, depuis le début de l'année.
Mais c'est surtout que parler avec un masque, je ne pouvais pas. Puis alors, refaire en visioconférence, c'était insupportable.
Non, c'est moi qui pouvais pas.
Oui, moi non.
En tout cas, vous êtes notre invité jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, je suis avec le docteur Denis Piot ce matin, qui publie Le Monde des Magnétiseurs aux éditions Bonneton. Donc c'est, on va dire, c'est votre thèse, votre travail de thèse que vous avez repris dans un livre. Vous l'avez retouché pendant la crise, justement, hein, de la Covid, puis qui avait un peu changé la perception que vous aviez de la médecine.
Et puis, je dis, c'est-à-dire que, une fois, je soutiens et je salue cette médecine de technologie qui est la nôtre et que je pratique avec beaucoup de plaisir et de bonheur depuis 40 ans. Mais c'est vrai que cette médecine a ses limites, on l'a vu, je le disais, mais elle fait preuve aussi parfois d'une extraordinaire générosité, on l'a vu aussi depuis un an et demi. Je veux dire que j'ai vécu ça de l'intérieur et fantastique quand même ces équipes qui se sont relayées, donc dans les hôpitaux en particulier, je les ai vues.
Dans une région où vous avez été très exposé en plus.
Vous avez été
vraiment en première ligne, c'est le cas de le dire.
Non, j'ai été médecin remplaçant d'un EHPAD où il y a eu 32 morts quand même. Donc dans la vie d'un médecin, je pense que comment en arriver donc à signer des actes de décès comme je l'ai fait donc au mois de février l'année dernière, c'est quelque chose qui m'a marqué bien évidemment.
Alors, on va essayer de préciser, de définir les termes, si vous voulez bien, ce matin. Quand on parle de magnétisme, de quoi est-ce qu'on parle? Et j'ai vu que vous utilisiez un autre terme, aimantisme. Similaires?
Un magnétisme, donc l'origine, ça vient de Magnésie, une petite île, et les Grecs allaient chercher des petits cailloux qui étaient des aimants, donc ils ont appelé ça le magnétisme. En fait, il y a deux magnétismes. Il y a le magnétisme physique, on connaît bien, que les physiciens connaissent bien, qui sont à l'origine donc de beaucoup de choses, en particulier donc du mouvement des planètes, du mouvement des électrons, et qui permettent aussi de protéger la Terre. Ça, c'est l'aimantisme physique qui est reconnu, qui est quantifiable. Et puis il y a le magnétisme qui est le nôtre, donc en fait celui des magnétiseurs, j'allais dire. Magnétisme vital. Et là, j'ai pas vraiment de définition. Et c'est un fluide, une onde, une vibration. Ce qui est sûr, c'est que Certaines personnes ont une énergie extraordinaire. Je pars du principe qu'on a tous une forme de magnétisme. Vous êtes magnétiseur, je le suis, mais qu'il y a des différences énormes et qu'il y a des gens qui ont des champs magnétiques, donc en fait, 1000 fois plus puissants. Donc en fait, j'en ai rencontré. D'ailleurs, dans les 25 que j'ai rencontrés, je pourrais presque aussi faire un classement parce que j'en ai senti et je le sais. Donc en fait,
mais quoi, vous avez ressenti quoi? De l'énergie?
Oui, puis même dans les pathologies prises en charge. Donc en fait, magnétiseur puissant, il peut même prendre en charge donc certains problèmes rhumatismaux, donc j'ai vu des arthrites, donc enfin des arthrites, ce qu'on appelle des capsulites, donc d'épaule et autres prises en charge de façon étonnante, quoi. Et puis encore une fois, il y a des puissances, mais le magnétiseur a cette prédisposition, cette énergie, donc en fin de compte difficilement palpable, difficilement mesurable pour l'instant, même si on avance quand même en la matière, il y a quand même des appareils qui nous permettent de dégager. Et je ferai d'ailleurs donc en fin de compte partie d'une mission donc avec des physiciens qui ont mis au point donc un appareil. Et je repasserai donc au vermeil.
Qui permet de quoi? De mesurer l'énergie.
L'énergie, le champ magnétique, le champ biomagnétique et autres. Donc, on va faire des progrès, c'est sûr. De toute façon, la science n'a pas de vérité pour l'instant, on le sait. La science a ses limites aussi. Donc, en fin de compte, les vérités d'aujourd'hui étaient peut-être les erreurs de demain, mais peut-être que
les
vérités.
On est plutôt bon sur les champs magnétiques.
Oui, mais encore une fois, il n'y a pas vraiment. Alors, si, il y a des appareils comme par exemple le SQUID, c'est un acronyme supraconducteur, etc., qui nous permet donc effectivement de mesurer, etc. Mais c'est pas encore donc quelque chose donc de bien courant. Et c'est sûr, c'est là que le bas blesse, j'allais dire, donc en fait pour les magnétiseurs, c'est qu'on ne peut pas donc en fin de compte évaluer encore vraiment de façon formelle le pouvoir magnétique de certains, ce qui est effectivement donc en fait peut paraître aux yeux des scientifiques quelque chose donc d'incongru, de bizarre et surtout donc en fin de compte d'impossible à expliquer.
À noter que le père de l'ancien premier ministre Michel Rocard, donc le professeur Rocard, Yves, très pointu sur le sujet. Ça le passionnait,
oui,
lui.
Professeur Rocard, non, mais c'est, on pourrait presque en faire aussi un, mais il y a sans doute des livres qui ont été faits, mais ouais. Ce type était quand même donc professeur de physique, à l'université. Il était surtout patron du laboratoire donc de mise en place donc du comment dire de la bombe atomique, hein, donc le qui avait été une mission qui avait été confiée par le général de Gaulle. Et lors d'un essai donc justement d'une bombe atomique dans le Sahara, il s'est intéressé donc à un sourcier, et comme c'était un type donc qui voulait toujours tout démontrer, il s'est intéressé, il a fait des études tout à fait intéressantes, et c'est le premier qui a pu démontrer donc que les gens qui étaient ou sourciers ou magnétiseurs avaient un surcroît de cristaux de magnétite.
Professeur Yves Rocard, googlez, vous allez voir, c'est passionnant. Donc, le magnétisme dont on parle ce matin, c'est ce que vous appelez le magnétisme vital et animal.
Et animal.
Après, alors on confond un peu tout. En tout cas, on utilise peut-être des mots pour des autres. On parle beaucoup de guérisseurs. Donc, les guérisseurs, vous les mettez dans cette famille.
Guérisseur, c'est un nom générique. Et en plus, je vais vous dire, les magnétiseurs que j'ai rencontrés n'aiment pas trop le mot guérisseur parce que c'est quand même laisser souvent un grand espoir, donc qui ne correspond à rien de toute façon. Donc, guérisseur, c'est un nom générique. Moi, j'ai rencontré des magnétiseurs avec. Je les ai classés un petit peu. J'ai trouvé un peu trois types de magnétiseurs, donc que j'explique. Donc en fin de compte, c'est ma classification, mais elle n'engage que moi de toute façon.
Mais c'est la vôtre.
C'est la mienne.
On
voilà.
On peut y aller si vous voulez nous expliquer.
Oui, rapidement.
Trois types. Ouais.
Trois types. Donc en fait, alors vous avez donc les penseurs de secrets, les leveurs de mots, et qui sont ces magnétiseurs. Donc en fait, qui donnent une vision, bien entendu, spirituelle, et qui ont la foi et qui considèrent que ce don leur a été donné donc par Dieu et qui se doivent donc en fin de compte. Et alors il y a tout un, c'est ceux qui ont le plus attiré et pour lesquels on a le plus écrit de livres, parce que c'est quand même toujours très secret, avec des formules, avec des prières, avec l'utilisation éventuellement de chapelets, etc. Et ce sont des dons qui se transmettent donc parce que lorsqu'on vieillit, faut transmettre, etc.
C'est important ça, le don.
Oui, le don.
Hein, voilà. Parce que les magnétiseurs ont un don.
Oui, ils ont un don pour moi, oui, ils ont un don, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir l'intention, il faut aussi avoir la générosité. Le don ne suffit pas. Donc, pour en revenir donc à nos penseurs
donc,
de secrets,
premier...
les penseurs de secrets, les leveurs de mots, voilà. Et puis donc, les seconds que j'ai appelés plutôt magnétiseurs profanes, donc, qui sont donc des gens qui ont cette capacité de capter cette énergie et de la transmettre, de canaliser, de d'emmagasiner, de canaliser, et qui donne beaucoup de mèmes, donc en fin de compte, dans cette vision, mais qui n'est pas, encore une fois, une vision, j'allais dire, spirituelle, même s'ils ont une foi, ils ont souvent la foi, donc en l'homme, une foi, et ils considèrent que leur énergie, elle est soit tellurique, soit cosmique, soit... mais je veux dire que ça n'a pas tout à fait, donc... encore une fois, l'aspect et surtout la définition des premiers. Et puis alors, troisièmement, et très rapidement, mais encore une fois, c'est pas aussi cloisonné que ça, j'ai vu donc ces gens qu'on appelle les bioénergéticiens, qui ont une approche beaucoup plus, j'allais dire, globale. Donc en fait, tous ont une approche globale holistique, ce qu'on appelle holistique, c'est-à-dire le corps et l'esprit. Mais le bioénergéticien a souvent un travail donc d'approche psychologique, en plus donc des soins qu'il produit, avec un discours, j'allais dire, beaucoup plus intellectuel, donc, et ceux-là, c'est peut-être ceux qu'on trouvera le plus facilement, par contre, là, sur Internet.
Alors, comment ça fonctionne? Ça veut dire qu'un magnétiseur, c'est quelqu'un qui vous pose la main sur une zone qui est malade?
Non, on ne pose pas la main, justement. Donc, on impose les mains, c'est-à-dire, donc, c'est à distance. Mais ce qui est sûr, c'est surtout donc, une personne qui a cette capacité de rentrer en résonance avec l'individu. Et cette capacité étonnante, et je sais de quoi je parle pour avoir vécu quelques expériences, de capter donc des nœuds d'énergie, des nœuds d'énergie, parce qu'on est dans une thérapie qui est une thérapie d'énergie, comme toutes les médecines orientales, etc.
Quelles sont justement les pratiques qu'ils utilisent?
Alors en fait, chacun a sa pratique. Il y en a qui utilisent par exemple des échelles donc pour essayer donc justement de capter donc le degré de souffrance, etc. Enfin, mais chacun a sa méthode. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de diplôme d'ailleurs, de toute façon. Et puis chacun le fait suivant son ressenti, avec son expérience, avec effectivement ses formations aussi, parce qu'il y a quand même des gens qui se forment au niveau de stage, à dire, donc voilà, de magnétiseur. Mais encore une fois, il y a une prédisposition, mais ça ne suffit pas. Il faut cette intention.
Ils vous en ont parlé de leur pratique? Ils vous disent, voilà, je procède comme ça.
Pour chacun. Donc en fait, c'est décrit à peu près d'ailleurs dans le livre. Pour chacun, donc en fin de compte, la pratique est, j'allais dire, assez différente. Mais pour tous, ce besoin d'être un petit peu à part, ce besoin d'être, ou ce sentiment d'être guidé, donc d'être guidé, oui, c'est le mot, donc en fait, par cette énergie, donc dépassé même d'ailleurs par cette énergie, avec, je crois, une déconnexion complète. C'est pas du tout intellectualisé, tout ça. C'est ce sentiment d'aller vers une zone, donc en fait, de ressentir des zones donc qui sont des zones de souffrance, et de pouvoir donc lever ces nœuds d'énergie, comme ils le disent, donc, et de pouvoir donc soulager les souffrances, qu'elles soient physiques ou autres, donc globales.
Quels sont les mots qu'ils prennent en charge?
Les mots.
Oui, les mots, les maladies, les...
Oui, alors je crois que c'est aussi simple.
Leur terrain de compétences, leur champ de compétences.
En fait, c'est aussi propre à chacun, mais globalement, bien sûr, tout ce qui touche à la peau, aux brûlures, tout ce qui touche donc aux eczémas, etc. Et puis, alors après, ses fonctions, tout ce qui touche à l'intestin, toutes les souffrances, donc souffrances, encore une fois, digestives, souffrances articulaires pour certains, je l'évoquais tout à l'heure. Je crois que chacun a un petit peu son champ de compétences. J'en ai vu qui intervenaient également au niveau des phénomènes lorsqu'il y a des difficultés pour avoir un enfant, donc de stérilité, etc. Enfin, c'est un peu variable. Et dans le cas, par exemple, des barreurs de feu, ou leveurs de mots, ou penseurs de secrets, ils s'attaquent surtout, donc, en fait, aux brûlures, bien évidemment. Donc, aux brûlures, tout ce qui est brûlure, ça, c'est quelque chose d'étonnant.
Alors, justement, ces fameux barreurs de feu, aujourd'hui, ils ont pignon sur rue dans les hôpitaux.
Dans les hôpitaux, oui. Et en fin de compte, dire que des hôpitaux s'ouvrent, ça dépend complètement du chef de service. Et c'est vrai qu'il y a des services d'urgence qui font appel de façon tout à fait, bien sûr, informelle, j'allais dire, donc à des barreurs de feu. C'est souvent les infirmières qui font appel aussi, donc en accord quand même avec le chef de service. Et puis dans certains services de brûlologie, donc en fait, services qui font appel parce que il y a des témoignages de médecins spécialistes donc des brûlures, hein, comme à Lyon. Et qui le disent, c'est étonnant. C'est-à-dire que donc pour soulager rapidement, etc., il y a des interventions de barreurs de feu qui amènent des résultats étonnants, qui amènent des résultats étonnants. Je le dis étonnant et je le dis toujours. J'ai vu chez certains des magnétiseurs que j'ai rencontrés, ou guérisseurs, ou barreurs de feu, ils avaient mis donc des cahiers, donc un petit peu pour permettre aux gens, donc livre d'or, je dirais. Donc en fin de compte, et j'ai vu des choses étonnantes. J'en ai pris en photo d'ailleurs. Elmo Miracle qui apparaît. Je le dis toujours, si moi j'avais ouvert un livre d'or il y a 40 ans, j'aurais quoi, des récriminations. Vous m'avez donné du générique, vous m'avez pas demandé le scanner, etc. Ce serait ça mon livre d'or. Mais là, j'ai vu des livres d'or à faire pâlir. Donc en fait, le moindre.
On peut avoir des exemples de.
De gens, donc en fait, oui, j'ai même vu des exemples avec des photos, donc en fin de compte étonnantes, d'ailleurs chez les animaux aussi, et des témoignages surtout de patients, parce que là j'ai interrogé des magnétiseurs, j'ai interrogé les médecins. Ce qui aurait été intéressant, c'est d'avoir donc le sentiment aussi de la population, et là j'en ai eu de façon informelle, dès lors que les gens savaient que je m'intéressais au sujet, les langues se déliaient.
Est-ce qu'on sait pourquoi les gens vont consulter un magnétiseur? Il y a cette idée parfois que quand tout est perdu, qu'on a tout essayé, on va aussi voir les magnétiseurs.
Absolument. De toute façon, la maladie est une zone, est un moment d'incertitude pour tout le monde, y compris pour les médecins. Parce que ce qui est étonnant, c'est que chez les magnétiseurs que j'ai rencontrés, tous avaient des médecins. Tous, donc en fait, des médecins, des infirmières, des kinés, etc. Et je voyais une étude récemment en Suisse, donc qui est vraiment très ouverte, la Suisse, à tout ce qui est magnétisme. Ils ont fait une étude, donc, en retrouvant 49 médecins oncologues qui avaient eux-mêmes eu des cancers, enfin, 50 médecins oncologues. Étude, alors, scientifique, hein, très rigoureuse, etc. Et ils ont posé la question à ces 50 médecins oncologues, encore une fois, qui ont eu un cancer, combien avaient fréquenté les magnétiseurs? 49. C'est-à-dire que, quand on est dans la certitude, on se dit, après tout, pourquoi pas? Il y a bien d'autres explications, hein. Je crois que je l'ai expliqué, une médecine scientifique comme la nôtre, et peut-être aussi, c'est aussi le pendant de la chose, en train de un petit peu de se déshumaniser, à force de se spécialiser, donc en fin de compte, on s'éloigne de l'individu dans sa globalité. On n'est plus dans la médecine holistique. On n'a plus une médecine spirituelle, on a une médecine technique qui est bien, hein, qui est bien d'ailleurs. Encore une fois, je travaille avec des médecins spécialistes, cardiologues et autres. C'est très bien. Si j'ai un problème de trouble du rythme, j'irai voir un rythmologue, cardiologue, parce que ce sont des gens qui sont hyper spécialisés. Mais le pendant de la chose, c'est qu'on s'éloigne de l'individu dans sa globalité.
À noter que les 25 magnétiseurs que vous rencontrez pour votre enquête, aucun d'entre eux ne demande à celui qui vient de le voir d'arrêter son traitement s'il en a un.
C'est fondamental, c'est fondamental. Et je veux dire que le sentiment de mes confrères est tel que on en arrivait, j'ai des schémas, à 75% des confrères rencontrés qui en arrivent à dire pourquoi pas, à une condition, à deux conditions, c'est qu'on ait affaire à des gens qui soient honnêtes et qui ne soient pas des charlatans. Et pour ne pas être charlatan, bien entendu, il faut avoir le discours qui va avec. C'est d'ailleurs le premier des discours, c'est celui qui arrive donc en fin de compte chez un guérisseur qui lui dit « arrête tout, je vais te guérir », il faut surtout là se sauver. Je le dis, il y a tout un discours, il y a toute une attitude donc à avoir, et c'est extrêmement important ne pas avoir donc en fin de compte des gens qui sont des charlatans, se méfier des charlatans, et puis des dérives sectaires aussi, parce que ça arrive aussi.
Alors, le docteur Denis Piot est notre invité ce matin. On est dans ce monde qui nous interroge, hein, celui des magnétiseurs. Je rappelle que vous publiez Le Monde des Magnétiseurs aux éditions Bonneton.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Voilà, on parle du monde des magnétiseurs ce matin avec le docteur Denis Piot qui est mon invité. Et je rappelle que vous êtes médecin généraliste, la médecine générale que vous pratiquez depuis une quarantaine d'années. Et puis vous avez fait un travail de thèse, hein, où vous êtes intéressé à ce monde des magnétiseurs. Vous en avez rencontré 25 que vous avez complété avec une étude scientifique, bien médicale. Vous avez rencontré
150 médecins généralistes.
Donc et 120 vous ont répondu.
Ce qui m'a permis de faire une étude statistique fiable, enfin viable, surtout avec, en prenant en compte de l'âge des patients, de leur fonction, de leur mode de fonctionnement, de leur lieu, suivant qu'ils étaient en campagne ou pas. Voilà.
Donc, bon. Et ce qu'il ressort de votre enquête, c'est que ces deux médecines, finalement, elles sont complémentaires et qu'elles doivent et qu'elles peuvent cohabiter.
Mais bien sûr, c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative. Et je sens donc en fait un frémissement en France. Je veux dire qu'on a un vrai retard. J'ai évoqué la Suisse tout à l'heure, par rapport à l'Allemagne, par rapport aux États-Unis. Il y a un blocage parce que depuis Descartes, donc fin du XVIIe siècle, donc on a mis le corps d'un côté, l'esprit de l'autre. Au corps, donc la matière et l'esprit, La matière, donc, c'est la médecine. L'esprit, c'est la religion. Donc, c'est culturel en France. Et puis après, on a eu une médecine rigoureuse, Claude Bernard, 1865, médecine expérimentale et autres. Et il y a eu une vraie dichotomie, encore une fois, entre ces deux types de médecine qui s'ignorent, donc, en fait, qui s'ignoraient, mais beaucoup moins maintenant. Et je sens, donc, encore une fois, un mouvement à travers plein d'éléments, entre autres des associations, de médecins, donc, auxquelles j'ai d'ailleurs adhéré, bien sûr, avec des gens, je parle du GEDCOB, Groupement d'évaluation des thérapies complémentaires, etc., des gens de qualité, des professeurs, mais qui se disent il faut en arriver donc à une thérapie, j'insiste sur les mots, thérapie complémentaire alternative. Thérapie complémentaire alternative. C'est, voilà, c'est pas, on dit plus médecine douce, etc.
Mais on dit plus MCA, mais on dit TCA.
Oui, thérapie complémentaire. Chaque mot a sa place. Complémentaire, encore une fois. Mm. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, tous les magnétiseurs que j'ai rencontrés, donc, plutôt encourageaient les gens, donc, en fin de compte, à continuer à se faire traiter, bien sûr, par la médecine conventionnelle. Mais, devant des thérapies, alors on parle du magnétisme, mais il y en a 400 de médecine alternative, mais des thérapies donc qui ne sont pas dangereuses, qui sont donc faites avec humilité, pourquoi pas. Et même si ça n'est qu'un effet placebo, pourquoi pas.
Parce qu'on évoque justement beaucoup cet effet placebo ou encore la suggestion qui fonctionnerait.
Oui, pourquoi pas, mais c'est extraordinaire, vous savez. Alors, je dis pourquoi pas, mais je n'y crois pas. Mais ceci dit, l'effet placebo est indéniable. Toute thérapie amène de toute façon un effet placebo. Toute prise en charge amène, pour peu que vous soyez empathique avec le malade et que vous soyez médecin ou pas d'ailleurs. Mais le placebo, donc en fin de compte, moi j'ai vu l'évolution. C'est-à-dire que quand j'ai commencé mes études, on parlait du placebo de façon péjorative. C'était l'empêcheur de tourner en rond. Et maintenant, on utilise l'effet placebo, même en chirurgie. On fait de la chirurgie placebo, donc etc. C'est-à-dire que ça, c'est l'évolution donc en fait de nos sciences et en particulier de la psychoneuro-immunologie qui montre que avec des éléments de l'esprit, on peut modifier des éléments du corps, que l'esprit entretient donc encore une fois les circuits au niveau du corps et que il peut y avoir des effets bénéfiques. Et ça, c'est scientifiquement prouvé.
Et ça fonctionne dans quel type de pathologie ?
Mais toutes les pathologies. Alors, bien entendu, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et qu'on va guérir des cancers.
Non, je veux juste pour comprendre un bien-être. Comment finalement la puissance de notre esprit, parce que c'est ça finalement.
La puissance de notre esprit.
L'effet placebo.
Oui, la puissance de notre esprit peut, et là, c'est aussi l'évolution des technologies, parce que ça, on peut le démontrer. Je vous parlais de la psychoneuro-immunologie, mais on le voit aussi avec les neurosciences, où on voit des modifications, donc, au niveau du cerveau, liées, donc, encore une fois, à des états de bien-être, en particulier, donc, avec des thérapies qui, donc, peuvent engendrer, pour certains, donc, un effet placebo. Pour ce qui est du magnétisme, il y a sans doute un effet placebo indéniable dans toute thérapie, je le disais. Mais pas que pour moi. Voilà.
À noter que Hippocrate, le père de la médecine moderne, utilisait déjà.
Bien sûr. Et il prônait aussi une alimentation saine. Il prônait donc une activité physique saine bien avant nous, c'est sûr.
Alors aujourd'hui, vous êtes justement pour qu'on repense finalement la façon dont notre médecine fonctionne. En France, aujourd'hui, quand on parle de ces fameuses médecines, alors alternatives, je ne sais pas quel nom on va leur donner, il y en a combien qui sont reconnues à peu près ?
Alors officiellement, au Conseil de l'Ordre, il y en a 4. Il y a l'acupuncture, l'homéopathie, la mésothérapie, et puis, je crois, l'ostéopathie. 4 seulement, mais il y en a bien d'autres, puisqu'encore une fois, il y en a 400. Mais si vous prenez, donc, en fin de compte, toutes les médecines, les thérapies orientales, je veux dire qu'il y en a bon nombre, et je veux dire, celles-ci ont fait preuve, donc, en fin de compte, de leur efficacité depuis 4000 ans, basée, donc, encore une fois, sur cette vision toujours holistique du corps et d'esprit, fondamentale. C'est-à-dire, le corps, donc, en fait, nourrit l'esprit, l'esprit nourrit le corps, et tout est lié. Et je veux dire que quand on est formé comme médecin, comme je l'ai été, bien formé, je dois le dire, mais on a une vision, donc, en fait, qui est basée, qui est centrée sur la maladie, sur les organes, et pas assez, donc, en fin de compte, sur l'individu de sa globalité. Je parlais de la perte de spiritualité de notre médecine. Encore une fois, on est formé, on est formaté, même, donc, encore une fois, mais bien, parce que je veux dire, encore une fois, je ne critique pas notre médecine, mais pour moi c'est insuffisant et il y a sans doute, et pour tas de raisons donc en fait que je pourrais évoquer, ce besoin donc encore une fois, alors que notre médecine évolue de façon technologique, pourquoi les salons de bien-être donc en fin de compte remportent des succès étonnants, donc font le plein, etc. C'est qu'il y a vraiment donc un besoin d'autre chose.
On sent que la demande est importante. Quel est le statut des guérisseurs en France ?
Mais le statut des magnétiseurs, ceux que j'ai rencontrés, encore une fois, le faisaient de façon magnétiseur. Dans...
Ouais. Il n'y a pas un risque d'exercice illégal de la médecine.
C'est plus vrai maintenant, c'était vrai. Donc du temps.
Voilà,
des... Oui, non, mais c'est sûr. Mais je le considère des revenus en arrière parce que du temps des grands guérisseurs, je pense à Serge Alalouf, qui est mort en 1982. Juste pour l'anecdote, quand il est mort, il y avait les enfants ont retrouvé 300 000 lettres de reconnaissance. Et lui, il a souvent été traîné devant les tribunaux, mais plus il était traîné, et plus on faisait de la publicité. Mais maintenant, je veux dire que tout ça, c'est un peu dépassé.
Il y a plus de risque.
Si on regarde tout ce qui est bioénergéticien, tout ce qui est thérapeute, etc. Je crois que si le Conseil de l'Ordre commençait donc effectivement à poursuivre chacun, là, on ne s'en sortirait pas, et ce serait sans doute effectivement contre-productif.
Vous avez une idée du nombre qu'ils sont en France?
Alors on dit 8000 à 10000, mais pour moi ils sont beaucoup plus. Beaucoup plus parce que à travers donc encore une fois une petite étude que j'ai pu faire, j'allais dire au niveau épidémiologique, dans un petit canton là, j'en ai rencontré un qui me dit ah ben il y a du monde autour de moi, j'en ai 10. Donc si je fais une extrapolation, pour moi il y en a beaucoup plus. Donc mais on dit 8000 à 10000, donc vraiment. Alors encore une fois, comme ceux que j'ai rencontrés, parce que après, si vous prenez les bioénergéticiens et autres, là, il y en a beaucoup plus en ville. Maintenant, il y a des cabinets complets avec différents types de thérapies.
Alors, vous parliez tout à l'heure de charlatans. Comment est-ce qu'on fait pour trouver un bon magnétiseur, un bon guérisseur et ne pas tomber sur un charlatan? Est-ce que vous avez un truc pour finalement les démasquer?
Les démasquer, non, mais encore une fois, il faut être méfiant, bien évidemment, il faut être méfiant. D'abord, il faut appeler avant et puis savoir, donc, en fin de compte, si ce qu'on a est compatible avec la prise en charge, donc, et le magnétiseur honnête vous dira oui, je peux ou pas, donc, en fait, vous prendre en charge. Après, encore une fois, je vous le disais, il y a le discours, celui qui vous dit arrêtez la médecine, etc., là, il faut surtout ne pas y aller. Après, il y a le nombre de séances, celui qui vous mène en bateau, qui vous dit, bah, il faut revenir 10 fois, etc., là, il y a visiblement, donc, une arnaque sous-jacente. Il y a, encore une fois, des éléments. C'est dans le discours, et puis je crois que c'est surtout l'attitude. Pour moi, encore une fois, ceux que j'ai rencontrés, c'était des gens pleins d'humilité, donc qui n'avaient pas envie qu'on parle d'eux, qui le faisaient, mais parce qu'ils se sentaient poussés, parce qu'ils avaient cette énergie, ce besoin, encore une fois, d'empathie, de compassion, ce besoin de soulager, parce qu'ils sentaient qu'ils avaient un don, c'est tout. Donc tout ça, ça se sent bien, encore une fois, ça se sent bien. Si d'emblée, on vous demande, donc en fait, 70 euros ou autre, etc., je pense qu'il faut aussi se méfier, donc encore une fois. Celui qui envoie 30 par jour ou 15 par jour, il faut se méfier aussi parce que magnétiser, ça fatigue. Ça fatigue énormément. On peut pas
en
voir.
C'est ce qu'ils vous disent, hein, les 25 que vous avez rencontrés. Oui. Finalement, magnétiser, ça vous vide.
Ça vous vide. Et j'ai une petite expérience, je le sais. Donc, en fin de compte, c'est quelque chose d'extrêmement épuisant. Et il faut savoir se ressourcer.
Il faut se recharger.
Se recharger. Ouais. Et on peut pas faire à la queue leu-leu comme ça. Donc, 15, 20 personnes, c'est pas possible. Donc, c'est pas possible. Ou alors, les grands magnétiseurs, ceux que j'évoquais, qui envoyaient, donc, en fait, par bus, genre Serge Alalouf, ou bien Noailles, donc Jean-Louis Noailles, donc, en fait, qui était le magnétiseur de Charles de Gaulle, quand même. Alors, ça, c'est quelque chose qui m'a estomaqué, donc je raconte toujours quand je fais une conférence, mais pour moi, de Gaulle, c'est de la rigueur, etc. Et de savoir, on m'aurait dit Mitterrand. J'aurais dit, certes, c'est normal.
Enfin, Mitterrand, mais, il a vu du monde, hein.
Oui, il a vu du monde.
Allez,
oui, mais je veux dire, il était très ouvert.
En médecine alternative, il a vu beaucoup de monde.
Oui, il croyait, il l'a dit dans sa dernière intervention, à la puissance de l'esprit, il l'a dit. Donc, en fin de compte, magnifique discours. Mais de Gaulle, pour moi, la rigueur, l'homme, le général, donc, en fin de compte, qui avait son magnétiseur. J'étais sidéré. Et son histoire, c'est que c'est à Colombey, durant sa traversée du désert, il a eu des problèmes de prostate, ça c'était officiel, il a été opéré, etc. Il avait sans doute un phénomène de prostatisme et on lui a fait venir le magnétiseur, donc en fait local, etc., qui l'a soulagé. Et de Gaulle en a eu vraiment besoin, même lorsqu'il est allé à l'Élysée, donc en fin de compte, avant de revenir donc à l'Élysée en 59, Jean-Louis Noailles lui dit, bah, mon général, c'est fini pour nous, et l'autre qui se fâche, qui dit, mais vous n'y pensez pas, Jean-Louis Noailles. Donc, et il a fait en sorte de le faire venir une fois par semaine, ça c'est officiel, c'est l'histoire. Une fois par semaine à l'Élysée, on allait chercher le magnétiseur de Gaulle. Mais qu'un homme aussi rigoureux, donc en fin de compte, pour moi, c'était ça, de Gaulle, puisse avoir besoin donc de thérapie alternative et de son magnétiseur, c'est quelque chose qui m'a sidéré.
Alors vous dites que les magnétiseurs ne font pas et ne posent pas de diagnostic.
Exactement.
Et finalement, quel rapport ils ont avec la guérison? Ils la revendiquent? Comment ils la nomment?
Non, ils ne revendiquent pas. Je veux dire, d'abord, ils n'ont pas d'obligation de résultat et autres. Et je veux dire qu'ils le font, je vous le disais, avec générosité. et ça passe pas, donc il n'y a pas d'obligation. D'ailleurs, on n'attend pas non plus forcément plus d'un guérisseur que d'un médecin en termes de résultats. Ça, c'est aussi un élément. On y va, on se dit bon, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais non. Alors, c'est sûr que de toute façon, arriver donc à faire des petits miracles, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est glorifiant. Donc, en fin de compte, je le sais. Donc, en fait, personnellement, je l'ai vu. C'est quelque chose. Il faut garder la tête froide, il faut garder l'humilité, et ça n'est pas facile. Ça n'est pas facile de ne pas prendre, comme on appelle au foot, la grosse tête.
Mais Jean-Louis Denis Piot, vous avez des magnétiseurs que vous avez rencontrés qui vous ont impressionné?
Oui, par leur force, oui, par leur force. Et avec qui je travaille, enfin je travaille, à qui j'envoie donc en fait des patients pour lesquels je ne peux rien, donc ou pour lesquels la médecine pour l'instant ne peut rien, ou avec trop d'effets secondaires des médicaments, parce que nous on a quoi, surtout les médicaments quand même, avant tout les médicaments. Et les médicaments ça a des effets secondaires, donc je le rappelle dans mon livre quand même. 18 000 hospitalisations donc chaque année liées aux effets secondaires donc de nos médicaments. Hein, nos médicaments ont leurs limites aussi. Hein.
Denis Piot, vous publiez donc Le Monde des magnétiseurs aux éditions Christine Bonneton. Merci de vous être déplacé pour venir jusqu'à nous ce matin.
Ben, c'est moi qui vous remercie. Et je l'ai fait avec un grand, grand plaisir.
Alors, c'était un plaisir de vous rencontrer. On réécoute l'émission en podcast hein, sur beurrefm.net et puis vous pourrez voir la vidéo, la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Passez une très, très belle journée. Santé sur beurrefm.